tout cas, je profite de l'occasion pour consoler les gens qui se désolent de ne pas avoir été au vrai Sinaï. Où est-ce qu'il se trouve, le vrai Sinaï? Je vous ai déjà dit que dans la tradition juive, on cherche plutôt du côté de Madiane. Hein. Moïse, le buisson ardent, il est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madiane. C'est par là, il me semble que Flavius Joseph aussi a tendance à le situer, ainsi que la tradition juive. Et saint Paul, vous rappelez, après sa conversion, dans une retraite en Arabie, donc plutôt de ce côté-là.
Oui, Madiane, c'est localisé actuellement dans...
Madiane, c'est ce qu'on voit là-bas, enfin, successivement, en montant du sud au nord, vous avez Madiane, enfin, l'Arabie saoudite actuelle, l'Arabia Felix, autrefois. Ensuite, vous avez Edom, puis ensuite, alors on verra ça demain en montant, Moab, Ammon, Galad, et puis ensuite le plateau de Golan, et puis Damas. Et circule là-bas cette autre grande voie entre les deux superpuissances. Là, on a parlé de la Via Maris, vous vous rappelez encore, maintenant de la Via Regis, la voie royale. Bon, alors Madiane. Alors, à l'époque byzantine, les moines, ce sont des traditions monastiques qui ont cherché surtout dans la péninsule sinaïtique. Le monachisme est né en Égypte, et puis les moines ont cherché. Et alors, des traditions se sont établies dans la péninsule sinaïtique. Et il y a deux montagnes qui longtemps se sont fait concurrence. Quand on vient du canal de Suez, on suit la côte ouest de la péninsule sinaïtique, on emprunte Wadi el-Cherh pour se renfoncer à l'intérieur, on traverse une oasis qui a 10 km de long, et qui est l'oasis de Feiran, qui est surmontée par une montagne merveilleuse, qui s'appelle Djebel Serbal. Et il y a toute une tradition monastique. Et se fait témoin de cette tradition des auteurs, alors qu'on trouve dans les sources chrétiennes, dans toutes les bibliothèques de couvent, on trouve dans l'édition bilingue des sources chrétiennes, un certain, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, Cosmas Indico-Plestes, tu vas voir ça si tu veux dans le fichier. Alors lui, il est pour le Serbal. Et puis à l'époque de Justinien, une autre tradition, un peu plus loin, dans le Sinaï, là, dans cette pointe granitique qui est au sud, a cherché le Djebel Moussa, là. Et là, on a pas pris le sommet le plus haut, qui est dédié à Sainte Catherine. L'humilité de Dieu fait qu'il n'a pas pris le point le culminant. Il a pris le Djebel Moussa, qui est un petit peu en contrebas, et maintenant c'est devenu le Sinaï incontesté. Tout le monde va là, actuellement. Moi, j'y étais 36 fois. J'avoue que si actuellement, je préfère économiser les kilomètres, l'argent, le temps, la fatigue, au bénéfice d'une méditation. Et le meilleur des Sinaïs, c'est là où il y a moins de touristes. Hein. Alors ce sont les routes vers ce Sinaï, devenu le vrai Sinaï, là, à l'époque byzantine, à l'époque de Justinien, que se sont mis à converger les pèlerinages. Et c'est à une époque où la théologie a influencé la politique. Maintenant c'est peut-être le contraire, mais à cette époque-là, il y avait des retombées de la théologie sur la politique. Et les Égyptiens là-bas sont devenus monophysites. Pour vous expliquer ce que c'est, parce qu'on n'en sortirait plus là. Il disait qu'il y a une nature et deux personnes, au lieu de dire, comme les grands conciles avaient défini, qu'il y avait une personne en Jésus et deux natures. Bon, ça change tout, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Bon, alors, les monophysites ont commencé à jouer des mauvais tours aux pèlerins orthodoxes qui allaient vers le Sinaï. Alors, les pèlerins orthodoxes, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé une nouvelle route. Et il fut un temps où, alors, une route secondaire, mais importante quand même, allant au Sinaï, passait par ici. Et vous avez aussi dans cette même collection des sources chrétiennes, le prêt spirituel de Jean Moscus. Il nous décrit des moines du désert de Juda qui en mettaient un pied devant l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils mangeaient, je ne sais pas ce qu'ils buvaient. Et ils arrivaient au Sinaï. Et si vous dressez une ligne droite ici, vous avez une étrange coïncidence entre les données topographiques et les points d'eau. Et les routes dans le désert sont conditionnées plus par les points d'eau que par les conditionnements topographiques. Mais ici, il y a une étrange ligne droite là, de conditionnements topographiques et de points d'eau. Alors, il a pu très bien faire comme nous, chercher de l'ombre là, et puis voir cette inscription, et puis continuer ensuite. Et puis, alors, quand on continue là-bas, on arrive dans une oasis qui s'appelle Ein Roudra. Alors, innombrables sont les chercheurs qui ont essayé d'identifier les étapes décrites dans la Bible. Il y en a une qui est certaine, que personne ne conteste, c'est Kadesh Barnea, dont on parlera demain. Mais Ein Khudra, il y en a qui pensent que c'est Hatzeroth, que Hatzeroth dont on parle ici. Et de fait, autrefois, avant que le Sinaï là, devienne plus difficile d'accès, quand on pouvait circuler en jeep librement sur les pistes, comme ça, on allait à Ein Khudra. C'est une des plus belles parties du Sinaï. Il fut un temps où la BST se faisait autour de Ein Khudra, de cette oasis-là. Et alors, à côté, un petit peu plus loin, il y a un étrange, dans un désert à la fois de sable et puis d'émergence de montagnes cristallines, là, on a des tombeaux étranges, tous selon le même canon, des espèces de ronds, de tonneaux ronds, qu'on appelle les Nawamis, avec des légendes que j'ai pas le temps de vous raconter, tout orienté dans le même sens, des cimetières. Et ce cimetière des Nawamis, là, se trouve à égale distance entre deux points d'eau où les caravanes faisaient escale. Est-ce que ça n'aurait pas... On disait que c'est l'époque néolithique. Maintenant, on en revient un peu, on pense que c'est de l'époque chalcolithique. Ça nous fait quand même du 4500, 5000 avant Jésus-Christ. L'époque charnière entre la préhistoire et l'histoire. Donc il y a plus de temps, enfin je ne sais pas. Est-ce que ça a servi de support, est-ce que ça a accroché ces récits, ces traditions des tombeaux de la concupiscence? C'est pas impossible, j'en sais rien, vous interrogerez les savants. Maintenant, la dernière en date des hypothèses sur l'emplacement du Sinaï, c'est un savant italien qui a déchiffré beaucoup d'inscriptions ici dans la région, dans le Negev. Et alors il a trouvé des traces de culte impressionnantes dans une montagne qui est pas loin de Kadesh Barnea. Et qu'on peut voir quand on circule sur la route actuelle qui longe la frontière égyptienne. C'est Har Karkom. Alors là, il y a un autre problème, c'est que les traces de culte qu'ils retrouvent datent de 1000 ans, avant les dates les plus probables de cette aventure que nous rapportent les livres de l'Exode et des Nombres. Alors vous interrogerez, hein, moi je suis un guide touristique, je ne suis pas un savant, mais ça peut vous avoir l'occasion de poser des questions si vous allez voir des gens compétents. Bon, en tout cas, moi mon but principal, hein, c'est toujours de, encore une fois, de trouver les meilleurs endroits les plus évocateurs pour lire les textes et où les textes dégageront au maximum leur signification. Je répète, le meilleur Sinaï pour moi c'est là où il y a le moins de monde, où il y a le moins de touristes et où on peut méditer en paix, camper en paix. L'ennemi sous les étoiles en médisant les textes. Alors supposons que nous sommes à Hatzeroth et on continue la lecture.